La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous, je suis Florence Vanquali, pasteur à l'Église évangélique libre de Toulouse, et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Jour de Pâques, jour de fête, jour de triomphe. Un triomphe qu'on a peut-être du mal à ressentir en ces jours difficiles, dans cette crise qui nous met à mal et qui, depuis plus d'un an maintenant, érode nos ressources et notre optimisme. Dans son évangile, Jean, le disciple de Jésus, nous rejoint peut-être plus qu'il n'y paraît. Il ne présente pas la résurrection du Christ avec des grandes orgues ou des trompettes, mais il la dépeint à petites touches, en demi-teinte, au travers de différents cheminements qui nous rejoignent, nous, aujourd'hui. Je vous invite à suivre le récit de la résurrection dans l'évangile de Jean, chapitre 20, les versets 1 à 18. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Alors elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et il vit les bandes de lin qui étaient posées là, par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas par terre avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à un autre endroit. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne se rend pas compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourne alors vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni !» ce qui signifie « Maître !» Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et elle leur annonce « J'ai vu le Seigneur » et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. À chaque fois, je ressens le même étonnement devant l'étrangeté de cette histoire. La foi chrétienne est bâtie sur la foi dans la résurrection du Christ et pourtant, dans le texte de Jean, Jésus apparaît presque comme un second rôle. Le miracle n'est pas décrit, on ne décrit pas non plus Jésus ressuscité, tout ce qu'on a de lui, c'est quelques paroles. Par contre, le projecteur de Jean se braque sur les disciples, hommes et femmes, de ce matin de Pâques. C'est avec leurs yeux que nous découvrons le Christ ressuscité, non pas comme une théorie ou une belle métaphore, mais comme un événement historique dont les disciples se font témoins. On est plongé vraiment dans le concret de leur expérience, dans ce demi-jour de l'aube naissante où règne encore la tristesse, l'inquiétude, l'agitation et la confusion. Les disciples de Jésus, hommes et femmes, sont comme nous, déroutés par ce qui leur arrive. Eux par la croix, nous peut-être par la croix, peut-être par tant d'autres signes de difficulté dans notre monde. La résurrection est une bonne nouvelle, mais à chaque fois, je m'étonne de ces témoignages sobres, prosaïques, dans l'évangile de Jean. Pas de trompette, pas de triomphe, pas de cortège d'anges pour chanter « Gloire à Dieu dans les cieux !» Et pas non plus de leçons, pas de théologie. Il n'y a pas de morale de l'histoire, simplement une expérience vécue par ses premiers disciples, vécue par des millions, des milliards de chrétiens. Une expérience que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui. Alors il faut reprendre le texte pour le creuser un petit peu. Les autres évangiles évoquent un groupe de femmes devant le tombeau vide, mais Jean préfère se focaliser sur des individus et il va mettre en lumière trois des premiers témoins de la résurrection. Marie de Magdala, Pierre et le disciple que Jésus aimait. On est souvent d'accord pour dire que cette expression désigne probablement Jean lui-même. Trois témoins et trois chemins différents, trois chemins que je vous invite à reparcourir ensemble. C'est d'abord Marie-Madeleine qui lance l'alerte. Arrivée tôt au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus, elle constate que le tombeau est ouvert. Alors à cette époque, il y a beaucoup de profanation de tombes. On vole les corps, les objets. Et puis, c'est vrai, Jésus était très en vue, connu du grand public, arrêté et condamné dans des conditions plus que troubles. Alors, ça aurait été possible que des personnes volent le cadavre de Jésus. Marie a peur devant cette possibilité. Alors, elle appelle la cavalerie, elle appelle les disciples. Pierre, l'intrépide, et Jean, proche de Jésus, se précipitent sur place. Et tous les deux sont confrontés à la réalité du tombeau vide. D'abord Pierre, puis Jean, constatent que la tombe est trop bien rangée pour que c'est pu être un vol. Des malfrats auraient sûrement pris les tissus précieux. Ils n'auraient pas dénudé le cadavre. Et puis si une bandelette était tombée par terre dans la précipitation, ils ne se seraient pas arrêtés pour la ranger. Le tombeau vide et les linges bien rangés suffisent à Jean pour croire. Il croit sans comprendre. Non pas que la foi s'appuie sur la bêtise, mais avant de comprendre intellectuellement, avant de saisir toute la portée théologique de l'événement, sans peut-être pouvoir mettre des mots dessus, Jean a cette intuition profonde que Dieu a agi. On ne sait pas comment, mais Jésus n'est plus dans la tombe. Ce n'est plus le banal cadavre d'un énième condamné à mort. Dieu a agi. Le Dieu qui fait vivre a vidé la tombe et balayé la mort. C'est de l'ordre de l'évidence. Jean croit. Il y a plusieurs façons de rencontrer Dieu. Et parfois, c'est simplement cette conviction, dans nos tripes, difficile à expliquer, que Dieu est là. Que Dieu a conduit telle situation, qu'il a permis telle guérison, telle réconciliation, qu'il a arrangé, ce qu'on pourrait sinon appeler une coïncidence. Un de mes amis appelle ça les hasards avec un grand D. Cette impression d'être devant l'empreinte de Dieu, comme s'il marchait devant nous, invisible, mais présent. Pendant ce temps, Marie est revenue près du tombeau. Elle est la première à rencontrer le Christ vivant, ressuscité. Mais cette rencontre, encore une fois, n'est pas triomphale. Marie, prise par sa peine, ses larmes, son inquiétude, toute préoccupée qu'elle est par la mission qu'elle s'est donnée de retrouver Jésus, ne reconnaît pas son maître. Alors d'abord, elle voit des hommes dans la tombe. Elle pense voir des hommes bien habillés sans saisir qu'ils sont des anges, des messagers de Dieu. Ensuite, elle se retourne et elle pense voir le gardien du jardin. Alors elle lui demande où est le corps. Ne serait-il pas lui responsable du transfert du corps de Jésus ? Est-ce que Joseph, le généreux propriétaire du tombeau où Jésus a été placé, se serait ravisé ? Aurait-il finalement déplacé le corps pour ne pas être associé aux condamnés crucifiés, pour ne plus être sous les projecteurs des responsables politiques et religieux qui ont fait mourir Jésus? On ne sait pas. Marie est prise dans ses questions, elle est perturbée devant l'absence du corps. Comment peut-elle ne pas reconnaître Jésus? Peut-être que Jésus est différent d'avant. Peut-être qu'elle voit mal ses traits dans l'obscurité de l'aube et dans les larmes. Peut-être aussi qu'elle ne le regarde qu'à moitié, sans lui porter attention. C'est tellement impensable de voir Jésus debout qu'elle ne le voit même pas. Marie est tellement absorbée par ses préoccupations qu'elle ne décode rien de ce qui l'entoure. Elle a sa propre clé de lecture. Jésus a été déplacé. Et tout ce qu'elle enregistre est interprété à cette lumière. Marie de Magdala est tellement proche de nous. Dans notre capacité à nous focaliser sur nos questions, sur nos peurs ou sur nos missions, au point de nous auto-aveugler, de rater l'évidence, Dieu est présent. Jésus doit l'appeler par son prénom pour qu'elle voie. C'est lorsqu'il l'interpelle directement qu'il arrive à percer cet aveuglement, comme s'il la secouait par les épaules. « Marie, c'est moi !» Et là, elle croit. Elle se prosterne. Elle le saisit. Stupéfaite, soulagée, heureuse. Et Jésus lui donne alors une nouvelle mission. Elle repart avec un objectif clair, témoigner auprès des autres disciples. Mais je reviendrai aux paroles de Jésus, car il nous reste un troisième témoin. Pierre, lui, est reparti, ébranlé, perturbé, sans trop savoir quoi penser. Comme les autres disciples, il aura besoin de voir Jésus ressuscité physiquement pour croire. Il aura besoin d'une preuve directe. Pour l'instant, il se pose des questions. Peut-être que certains parmi vous se sentent plus proches de Pierre, intrigués, ni croyants ni vraiment non-croyants, devinant que Dieu agit mais hésitant à sauter le pas de l'incroyable. Peut-être que comme Marie ou les autres disciples, vous avez besoin d'une rencontre personnelle, indubitable avec Dieu, mais que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il y a encore du chemin avant de vivre cette expérience. La bonne nouvelle, c'est que près du tombeau vide, il y a de la place aussi pour votre chemin. Le témoignage de Jean raconte les choses telles qu'elles se sont passées, avec honnêteté et sobriété, avec des détails précis qui relatent la façon dont lui a abordé la scène. Étonnamment, près du tombeau vide, le Christ est peu présent. Ce sont les disciples qui occupent le devant de la scène. L'accent ne porte pas sur le miracle, comme souvent chez Jean, mais sur la réaction de ceux qui se confrontent à lui, dans leur foi et dans leurs questions. Parce que Jean ne veut pas nous faire rêver en nous racontant des histoires, même merveilleuses, il veut surtout que nous, nous prenions position. Et moi, qu'est-ce que je crois? Devant le tombeau vide et bien rangé, devant tous les témoignages de ceux qui ont rencontré Jésus, devant l'assurance de Marie-Madeleine, qui vient interpeller les disciples, devant les doutes de Pierre, qui, quelques semaines plus tard seulement, risquera sa vie pour prêcher sur la grande place la nouvelle du Christ ressuscité. C'est bien de fêter Pâques et de chanter le Christ crucifié revenu à la vie, mais si je ne crois pas, si vous ne croyez pas, Pâques n'est qu'une fête de plus. On peut être un habitué des églises ou être en chemin, en questionnement. On peut être convaincu que quelque part Dieu existe, mais le sens de Pâques, c'est que le Christ ressuscité vient personnellement à notre rencontre, là où nous en sommes. Revenons aux paroles de Jésus à Marie. Elle l'a saisi tout à sa joie. Il est là, bien vivant. Mais Jésus la rassure. « Tu peux me lâcher, tout va bien, je suis là, je ne repars pas tout de suite. » Il la rassure et en même temps, il la prépare à son départ prochain. Jésus ressuscité va rester seulement quelques semaines avec les disciples. Il ne sera pas constamment avec eux d'ailleurs, il fera juste quelques apparitions. et ensuite il quittera la terre pour rejoindre Dieu, c'est l'ascension. C'est ce que Jésus annonce lorsqu'il dit « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu » au verset 17. Là aussi, les disciples auront du mal à comprendre. Quoi ? Jésus est ressuscité, c'est le seul de l'histoire de l'humanité à ressortir de la mort plein d'une vie surnaturelle, et déjà il s'en va ? Pour comprendre cette parole de Jésus à Marie, il faut revenir à ce que Jésus dit aux disciples avant son arrestation. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. Il vaut mieux pour vous, c'est Jésus qui parle, il vaut mieux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, alors que si je pars, je vous l'enverrai. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean, chapitre 16, versets 5, 7 et 13. À sa résurrection, Jésus reprend la même idée. « Je m'en vais. » Pas pour vous laisser orphelins, mais pour vous donner l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi Jésus part-il ? Pourquoi le Christ ressuscité n'est-il pas suffisant ? Le Christ ne suffit pas, c'est vrai, car il reste extérieur à nous. Il nous montre la puissance de Dieu, l'amour infini, la justice de Dieu. Il œuvre pour nous, mais il reste comme un frère, proche de nous, mais extérieur à nous. Or son but, le but de Dieu, c'est de venir non seulement nous entourer, nous conduire, nous encourager, nous relever, mais aussi nous habiter, demeurer en nous. Que la résurrection ne reste pas un événement historique extérieur, mais qu'elle prenne vie en nous, qu'elle vienne lutter contre les forces de mal et de mort en nous, qu'elle nous restaure de l'intérieur pour nous remplir de la lumière de Dieu. Or, c'est l'Esprit qui fait tout ça. C'est l'Esprit qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est lui qui fait de nous les témoins, les disciples du Christ. C'est lui qui trace en nous, et pas seulement devant nous, c'est lui qui trace en nous des chemins de vérité et de justice, de bonté et de paix. La venue, la mort et la résurrection du Christ, ce n'est pas la fin du projet de Dieu pour l'humanité. C'est l'inauguration d'un temps nouveau. Un temps où Dieu se rend particulièrement présent par l'Esprit en chacun de nous, partout où nous sommes, en attendant le jour où sa demeure sera faite pleinement parmi les humains. Le Christ ressuscité était sûrement glorieux, grandiose, bouleversant. Pourtant, autant dans les rencontres que dans ses paroles, Jésus nous renvoie à ce que nous, nous sommes prêts à vivre avec lui, avec Dieu, dans l'Esprit. Est-ce que, comme Marie, nous chercherons ce qui n'est pas là ? Est-ce que nous nous accrocherons à une certaine image de Dieu, de la réalité, de notre vie ? Ou est-ce que nous laisserons Jésus nous emmener sur des chemins qui dépassent notre imagination, mais des chemins où Dieu agit, où l'espoir transfigure la réalité, où la résurrection l'emporte sur la mort ?
À toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Oh. Mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire.